Bonjour et merci Sarah Petitbon. On vous retrouve à 9h, un numéro spécial ce matin du Secret des Sources après l'attaque contre Charlie Hebdo, la tuerie de Montrouge, les deux assauts lancés hier simultanément par la police et la gendarmerie. Deux assauts qui marquent la fin de la traque des frères Kouachi, Adam Martin Anguel, et la fin de la prise d'otage sanglante dans l'épicerie cachère de la porte de Vincennes à Paris.
Le Secret des Sources, édition spéciale, Frédéric Barrère.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Secret des Sources et les coulisses de l'information. Nous venons de vivre l'épilogue de 72 heures hors du commun, du jamais vu en France. 3 jours d'horreur et 17 morts. 72 heures qui vont marquer les mémoires. Nous allons revenir sur ces événements, la tuerie de Charlie Hebdo, la folle et terrible journée d'hier. Nous verrons comment la presse a rendu compte en direct de tous ces événements. Le 11 septembre français, titré à la une, le journal Le Monde, daté d'hier, après l'attaque de Charlie Hebdo. Même comparaison avec le 11 septembre dans Le Parisien cette semaine, avec un dessin d'Olivier Ranson qui est avec nous ce matin, où on voit deux crayons à papier parallèles, mine pointée vers le haut, comme les tours jumelles du World Trade Center à New York, des crayons en train de se consumer avec une épaisse fumée noire et avec cette légende, le 11 septembre, des dessinateurs. L'atrocité des attentats et des prises d'otages, la mobilisation spontanée et très importante dans les rues, le deuil, la colère aussi. Comment la presse attaquée a rendu compte de ces événements? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources sur France Culture avec nos invités en studio. Je le disais, Olivier Ranson, dessinateur au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alain Le Gouguec, président de Reporters sans frontières, et vous présentez également l'émission 116 rue Albert Londres sur France Inter. Bonjour Alain.
Bonjour.
Avec nous en direct d'Alger, Omar Belouchette, directeur du quotidien El Watan, La Nation, Omar Belouchette, plume d'or de la liberté en 1994, une distinction qui récompense les combats pour la liberté de la presse dans des conditions difficiles, et c'était en pleine décennie du terrorisme en Algérie. Bonjour Omar Belouchette.
Bonjour.
Nos trois regards extérieurs aujourd'hui, Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et Thibaut Henton pour les images et le web. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes derrière la console, Jean-Frédéric, vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Le Secret des Sources.
Il est 17h15, les policiers du RAID et de la BRI s'apprêtent à intervenir sur la prise d'otage à Vincennes tout de suite. Les premiers coups de feu. La fusillade est intense. Le bilan est lourd. Il y aurait 4 civils tués dans le magasin cachère où avait lieu la prise d'otage. 4 policiers sont également blessés.
La France, elle n'en a pas terminé avec les menaces dont elle est la cible. Alors, je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation. Et d'abord, être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Et j'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche ensemble pour porter ces valeurs de démocratie, de pluralisme auxquelles nous sommes tous attachés et que l'Europe, d'une certaine façon, représente. Alors, dans cette épreuve, je vous l'assure, nous sortirons encore plus forts.
Voilà, on vient d'entendre une fusillade nourrice et l'assaut donné hier par les policiers du RAID et les gendarmes du GIGN à Dammartin en Gouël et à Paris, porte de Vincennes. Un reportage de Claude Samper diffusé hier soir sur France 2. Et puis on vient d'entendre également François Hollande, le président de la République, dans une déclaration solennelle en direct de l'Élysée juste avant 20h hier. Alors je me tourne vers mes invités, Olivier Ranson, dessinateur au Parisien. Ce que l'on vient d'entendre, et Alain Le Gouguec également, ce que l'on vient d'entendre, c'est ce qu'on entend sur des terrains de guerre. J'imagine, Olivier Ranson, que vous avez suivi, comme des millions de Français, ces événements à la télé et à la radio, sur les réseaux sociaux également.
Oui, absolument. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux particulièrement, puisque comme tout le monde, on cherche de l'info, on cherche de l'info pas vérifiée, on cherche un tas de choses et on est en attente d'un maximum de précision sur tout ce qu'il y a. J'ai regardé, j'ai suivi et j'ai eu le sentiment, d'abord en voyant Le Monde, je suis obligé de rendre hommage à un journal concurrent, qui disait le 11 septembre, qu'effectivement, on est rentré dans une période de guerre. Et les parallèles avec le 11 septembre, c'est que le 11 septembre 2001, c'était la première fois que les États-Unis étaient touchés sur leur sol par un terrorisme étranger. Et c'est ce qui nous est arrivé aussi, vu l'ampleur. C'est un moment de basculement. Voilà.
Olivier Ranson, ce matin, il n'y a pas de dessin dans Le Parisien.
Ça arrive parfois, oui. C'est parce que j'ai suivi tout ça hier. Et la confusion entre les deux événements, l'issue tardive et puis les rebondissements. On a cru que l'épicerie cachère avait été libérée sans victime. On trouve 4 morts à l'intérieur. Ça a dissuadé. D'ordinaire, le journal me dispense. Ils aiment pas trop des dessins grinçants sur des sujets comme ça, tragiques. Et j'avais eu le privilège ou l'exigence aussi de pouvoir dessiner sur la tuerie à Charlie Hebdo, parce que je leur ai dit, je ne peux pas ne pas m'associer à ce qui se passe. C'est mes confrères, c'est des gens que je connaissais. Il n'y a pas de raison que j'en sois exclu.
Alain Le Gouguec, donc président de Reporters sans frontières, ce matin, vous êtes à la fois soulagé et horrifié.
Oui, évidemment, parce que quand on œuvre en faveur de la liberté d'information dans le monde, on a tendance à regarder ailleurs, parce que des attaques comme celles qui ont ensanglanté la rédaction de Charlie Hebdo, il y en a hélas tous les ans, tous les mois quasiment, que ce soit au Pakistan, que ce soit dans un tas de pays. Chaque année, Reporters sans frontières remet ses prix. On voit arriver des gens quelquefois qui sont extrêmement blessés dans leur chair, qui dorment dans leur rédaction depuis des mois, depuis des années, au Sri Lanka ou ailleurs. Et là, on se rend compte finalement, est-ce qu'on croyait être à l'abri véritablement de ce genre de choses, ou est-ce qu'on se disait que ça arriverait un jour? En tout cas, on ne voulait pas se le dire. Et là, maintenant, on est devant les faits. Il faut réagir devant ces faits. Réagir comment? En tout cas, il ne faut pas réagir à chaud. Il faut prendre le temps de la réflexion. On est on a été dans le temps de la colère. D'abord de l'effroi, évidemment, de la colère ensuite, du deuil. Et puis maintenant, c'est la réaction nationale qui va être
grande manifestation demain après-midi.
Exactement, qui va être très forte. Est-ce qu'il faut mettre des policiers en faction devant toutes les rédactions de France? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Dans l'immédiat, évidemment, il est normal que cette précaution soit prise. En cela, le chef de l'État respecte une résolution que la France a fait adopter aux Nations Unies en décembre 2006 et qui enjoint les États de protéger les journalistes, d'assurer leur sécurité partout dans le monde. Donc, moi, par exemple, j'ai fait une chose que je n'avais encore jamais faite jusque-là, devant des policiers en faction devant la maison de la radio, puisque c'est mon employeur. Ici, eh bien, je suis allé les voir le premier soir et je suis allé leur dire merci. Merci d'être là, parce que leur présence ici, comme beaucoup de journalistes, il m'est arrivé souvent d'être critique vis-à-vis de la police. Mais imaginez que 2 policiers sont morts mercredi dernier en défendant Charlie qui les allumait depuis des dizaines d'années quand même. Ça veut dire que la République est forte quand même. Et c'est dans des circonstances pareilles, aussi graves, qu'on s'en rend compte.
Il y a eu beaucoup de remerciements de la population envers les policiers à Dammartin, en Gouëlle, à Porte de Vincennes, après les interventions, des remerciements, des applaudissements. Effectivement, je voudrais que l'on aille à Alger retrouver Omar Belouchette, donc directeur du journal El Watan. Omar Belouchette, en Algérie, on reçoit bien sûr et on regarde les chaînes françaises. Est-ce que l'Algérie a suivi les événements qui se sont déroulés pendant ces 3 jour.
Oui, absolument. Vous savez très bien, les Algériens sont extrêmement parabolés et ces événements ont été énormément suivis par la population et une forte communauté algérienne qui vit en France. Bien entendu, il y a un intérêt très fort sur ce qui se passe dans votre pays, absolument.
Alors, Omar Belouchet, juste une question très courte, parce que la ligne n'est pas bonne. On va vous rattraper pour gagner en clarté dans la liaison pour nous et pour les auditeurs. Mais juste brièvement, des informations indiquent, je pense qu'on va vous comprendre, des informations indiquent que les services de renseignement algériens auraient informé les services de renseignement français début janvier, là, quelques jours à la veille de l'attentat de Charlie Hebdo, des risques d'attentat en France. Est-ce que c'est une information que vous avez également à Alger, au Watan?
Ah non, pas du tout. C'est une information qui a été donnée par un média français. Donc voilà, donc c'est une source, probablement une source policière française qui a révélé cette information à un média français. De l'autre côté, on n'a pas eu la possibilité de confirmer cette information.
Omar Belouchet, on vous rappelle, parce que la ligne n'est pas d'une qualité assez claire, on vous rappelle tout de suite et on vous retrouve, Omar Belouchet, en direct d'Alger, le directeur d'El Watan. Alors, en France, il y a eu une frénésie médiatique, une frénésie de direct d'émissions spéciales. La presse a couvert ces événements du début à la fin. Et ce matin encore, les radios, France Culture, les autres radios du groupe, les télés sont en émission spéciale. Les télés qui ont battu des records d'audience sur ces trois jours. Alain Le Gouguec, donc président de Reporters sans frontières, journaliste à France Inter, cette couverture médiatique a été considérable. C'était important de casser les antennes pour donner ce flot d'informations en direct. C'est compliqué quand même d'informer en direct pendant trois jours.
Bah, très souvent, il n'y avait pas grand-chose à dire. En fait, on faisait quasiment du surplace. Mais il était difficile de ne pas essayer de répondre aux attentes des gens. Les gens étaient à la seconde près, fascinés par cet événement, tellement fatigués aussi. Est-ce que vous n'avez pas croisé tous, on a tous croisé des gens dans la rue, des proches ou des gens parfaitement inconnus qui avaient la mine complètement défaite. On sentait la sidération, on savait que les yeux piquaient. Pourquoi ? Parce qu'on ressentait exactement les mêmes choses.
Il y a une demande d'information de l'autre côté, la presse en direct pendant 72 heures en émission spéciale est un peu en équilibre.
Mais ça n'a aucun sens éditorialement. Ça n'a absolument aucun sens quand vous avez une image fixe et des commentaires en boucle, ça n'a aucun sens. Mais là, on était au-delà même du sens éditorial. Voilà, il fallait seulement être braqué sur cet événement qui concernait tout le monde intimement.
Ouais, on n'avait pas envie d'entendre parler d'autre chose, Olivier Ranson.
Non, c'est sûr. De toute façon, les médias devaient être présents parce qu'il y avait la demande. Et la question d'avoir de l'information ou de l'éditorial à donner n'est pas évidente dans l'improvisation et dans la précipitation.
Alors, je voudrais qu'on écoute un document de BFM TV. Les journalistes de BFM TV ont pu parler et enregistrer les terroristes Chérif Kouachi et Hamidi Koulibaly. Kouachi à Dammartin en Gouëlle, Koulibaly dans l'épicerie cachère de la Porte de Vincennes. Ils ont pu les discuter avec eux, les interroger pendant la prise d'otage. Koulibaly, l'enregistrement a été fait à 15h. Ces documents font le tour du monde sur Internet et sur les chaînes de télé et de radio. Ce sont vraiment des documents. Je vous propose d'écouter d'abord Chérif Kouachi à Dammartin en Gouëlle et Hamidi Koulibaly, Porte de Vincennes, pendant la prise d'otage. On écoute.
Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Chérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. Et que je suis parti là-bas et que c'est Cheikh Anwar Al-Awlaqi qui m'a financé.
Et c'était il y a combien de temps à peu près?
Ça fait longtemps, avant qu'il soit tué. Qu'Allah le fasse miséricorde.
Est-ce que vous êtes en lien avec les deux frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo?
Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations.
Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux?
Non.
Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez?
Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers.
Alors pour les familles et les proches des victimes, cela doit être insoutenable d'entendre les assassins de ceux qu'ils aimaient et qui leur manquent terriblement aujourd'hui. Mais on apprend beaucoup d'informations là-dedans. Alain Le Gouguec,
il y a déjà une première information, puisque les frères Kouachi se réclamaient d'Al-Qaïda au Yémen. Koulibaly, lui, se réclamait d'État islamique. On parle de possibilités de fusion entre ces deux mouvements terroristes. Là, peut-être, l'information est-elle donnée de cette façon-là, de façon très spectaculaire et sanglante.
Après, il faut toujours faire attention à ce que
on peut toujours interpréter, bien sûr.
Mais il y a des informations dans ces deux documents. Oui, moi, je suis frappé en écoutant ça par le cas. Je répète, ils sont interviewés, il est 15h de l'après-midi. Ouais. Donc Koulibaly vraisemblablement a déjà tué 4 personnes dans l'épicerie cachère et il parle calmement, Olivier Ranson.
Vous avez remarqué aussi que quand il a expliqué ce qu'il faisait, il n'a pas trouvé le mot pour dire qu'il avait tué une policière. Il n'a pas la syntaxe, il n'a pas le vocabulaire. C'est des instinctifs, ils expliquent, ils répètent des choses comme ça, mais ils ne sont pas formés, ils sont malheureusement informes, c'est-à-dire ils n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas de respect de la vie humaine, ils sont partis dans une sorte de délire qu'ils ont reconstruit, où ils se prennent pour des commandos à l'attaque de l'Occident. La façon dont ils présentent une attaque synchronisée, c'est révélateur d'une sorte de fantasme ou de rêve de
synchroniser encore, hein, parce que Charlie Hebdo, c'est le mercredi, c'est oui, c'est et Montrouge, c'est le
l'un
jeudi.
L'un déclenchait l'autre.
Oui.
Mais ils sont dans leur monde et nous ne sommes que des cibles dans leur monde à eux et ils ne nous considèrent pas comme des humains.
Est-ce que c'est notre devoir d'informer, d'essayer de rentrer en contact avec des journalistes, des journalistes bien sûr, mais avec des terroristes en pleine prise d'otage dans une situation pareille? C'est le devoir d'informer?
Puisque vous le disiez vous-même, on entendait une information, en tout cas quelque chose qu'on...
C'est un document. Hein.
Qu'on peut interpréter, c'est un document, effectivement. D'abord, ça nous renseigne sur leur état d'esprit. En effet, comme le disait Olivier Ranson à l'instant, on ne sent aucune empathie, rien du tout. Un très très grand calme. Et puis le fait de savoir explicitement qu'il y avait une coordination entre deux mouvements terroristes, c'est aussi une information. Lorsque vous allez à la pêche aux informations, vous rencontrez des gens qui ne sont pas très recommandables et qui ne sont pas fréquentables du tout. Mais à partir du moment où ça vous permet d'avancer, finalement, ça donne des armes pour lutter contre eux aussi. Donc, est-ce qu'on peut négliger ça et se dire je refuse de leur adresser la parole? C'est un vieux débat, hein. C'est un débat qu'on a eu avec tous les extrémismes.
C'est un document d'information. J'imagine aussi que ça va être un document pour la police qui va éplucher en longueur ces enregistrements. Alors, le CSA, hier, a appelé les médias au plus grand discernement dans la couverture des prises d'otages. Thibaut Henton, pourquoi ce rappel à l'ordre?
Eh bien, à cause du déluge d'informations.
Ah, un petit problème de micro, Thibault. Voilà. Donc, vous nous disiez à cause du déluge d'informations.
Oui, plus ou moins sourcé et contradictoire, rarement vérifié, durant toute la durée qui aura séparé l'assassinat collectif à Charlie Hebdo du double raid mené hier en fin d'après-midi. Le tout dans une ambiance peur sur la ville, comme le résume le site Arrêt sur Image à propos de BFM TV. Les chaînes d'infos en continu, on le sait, réalisent leurs plus grandes audiences lors d'événements de ce genre, vous le disiez. Événement tout de même assez rare et donc, disons-le sans cynisme, tout à fait précieux pour elles lorsqu'elles surviennent. C'est plus du journalisme, c'est du streaming, formulé joliment Jean Michels sur Twitter. Or, quand on stream, on n'a pas le temps de recouper ces infos. Tout voir, ne rien comprendre. Il faudrait comparer au traitement médiatique de la prise d'otage de 94, également à celui du 11 septembre par la télévision américaine, ça viendra sans doute. Ce qui nous amène à cette scène tout à fait surréaliste dans la nuit de mercredi à jeudi à Reims, où les caméras d'ITL et de BFM suivaient les policiers du raid, visage découvert au milieu des passants, sans qu'on sache très bien.
Ils étaient carrément à côté.
Ils étaient à côté avec
les
passants.
Ils faisaient des patrouilles et perquisitions pratiquement.
Sans qu'on sache vraiment la raison de la présence des uns et des autres. Et de fait, d'assaut, il n'y eut point à Reims. Il s'agissait d'une simple perquisition. Et hier, vendredi, rebelote. Des policiers se sont à nouveau plaints des journalistes. Et sur France 2, l'un d'eux, trop près du lieu de la prise d'otage porte de Vincennes, se faisait sermonner en direct. Reculez, reculez. Bon. Mais si le CSA a formulé ce rappel à l'ordre, c'est peut-être et surtout parce que dès mercredi soir, des documents auxquels seuls des fonctionnaires de police ont accès se sont mis à circuler sur les réseaux, à l'initiative d'une sorte de journaliste qui dispose d'une carte de presse et d'un pistolet, figurez-vous. Jean-Marc Manac a fait la généalogie de cette diffusion sauvage de documents sur les réseaux. Diffusion de l'avis de recherche qui aura gêné l'enquête, comme le confirmait hier soir le procureur de la République. Ce cirque médiatique aurait fait perdre 90 minutes, lisais-je aussi hier soir. Information précise mais néanmoins non confirmée, laquelle permet néanmoins de poser la question si les policiers avaient pu intervenir avec 90 minutes d'avance, l'histoire aurait été tout autre et aurait permis peut-être l'arrestation des suspects et leur jugement en bonne et due forme.
Thibaut Henton.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias. On va évoquer avec vous la liberté d'expression. qui est un droit fondamental, un fondement de la démocratie.
De notre démocratie, tout à fait. Il faut rappeler, puisque bon, le document que vous nous avez passé montre bien qu'on était là pour défendre le prophète. Donc l'assassinat de Charlie Hebdo est donc lié aux caricatures qui ont été publiées. Et ces caricatures s'inscrivent dans la problématique de la liberté d'opinion. Donc la liberté d'opinion, la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale qui a la même valeur que d'autres libertés comme la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et donc le juge doit faire ce qu'on appelle le test de la balance pour vérifier si quelle liberté doit prendre le pas sur l'autre. Donc la liberté d'expression, c'est un droit, c'est une liberté fondamentale, mais qui n'est pas sans limite. Il y a des abus qui sont prévus par la loi, et ces abus, elles ne concernent que l'homme, que l'individu ou une collectivité d'individus. En France, c'est fondamental. Il n'y a pas de la loi n'interdit pas le blasphème. C'est-à-dire que si on doit respecter l'homme, on peut critiquer notamment Dieu ou les divinités. Les abus de la liberté d'expression sont sanctionnés par un juge, et les peines sont très lourdes puisque ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Voilà donc le contexte dans lequel s'inscrit la problématique des caricatures. Et là, ce qui rajoute aussi à l'horreur de Charlie Hebdo, c'est que Charlie Hebdo avait le droit, puisqu'on parle des caricatures. Il faut quand même se souvenir que par deux fois, suite à la publication des caricatures danoises en 2006, eh bien, en 2007 et en 2008, les tribunaux avaient jugé qu'il n'y avait pas eu d'abus de la liberté d'expression.
Voilà, c'est le procès des caricatures de Charlie Hebdo en 2007.
Voilà. Ouais. Donc, on a le droit de ne pas aimer les caricatures. Et c'est pour ça que des associations religieuses avaient saisi les tribunaux. Elles avaient le droit de le faire. Et donc, le juge a vérifié si, effectivement, il y avait... Alors, le délit qui était poursuivi, c'était celui d'injure envers un groupe de personnes à raison de leur religion, c'est-à-dire les musulmans. Et Charlie Hebdo avait répondu: nous n'attaquons pas les musulmans, nous attaquons les intégristes. Et donc c'est ce que les tribunaux ont vérifié. Ils ont considéré effectivement que si les propos étaient parfois outrageants, s'ils étaient parfois choquants, eh bien il n'en demeurait pas moins que ça s'inscrivait dans un débat d'intérêt général. Et je cite la phrase, c'est-à-dire: au sujet des dérives des musulmans qui commettent des agissements criminels en se revendiquant de cette religion et en prétendant qu'elle pourrait régir la sphère politique. Et donc, c'est un débat d'intérêt général et ça l'a justifié la publication. Et on doit quand même aussi rappeler que le Charlie Hebdo, c'est ce que les tribunaux avaient relevé, c'est d'abord un journal. C'est-à-dire que si on ne l'aime pas, eh ben on ne l'achète pas. Ce n'est pas de l'affichage dans les rues. En plus, Charlie Hebdo s'attaque à toutes les religions. C'est pas uniquement du prosélytisme ou être pour ou contre une seule religion.
C'est effectivement l'angle de la plaidoirie de Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, qui avait montré toutes les caricatures avec tous les dieux et toutes les religions.
Oui. Voilà. Et enfin, il y a cette notoriété de Charlie Hebdo qui fait que pour les tribunaux, eh bien, on peut pas les prendre au sérieux. Charlie Hebdo, ce n'est pas un journal d'information. Hein, un journal caricatural,
absolument. Alain Le Gouguec, vous vouliez intervenir.
Oui, Reporters sans frontières a publié il y a 2 ans, en décembre 2013, un rapport sur le blasphème dans le monde, justement, parce que c'est très préoccupant ça pour les journalistes, quel qu'ils soient, qu'ils tiennent un crayon, un stylo, une caméra ou un micro. 47% des pays, c'est-à-dire près de la moitié des pays du monde, condamnent le blasphème ou la diffamation pour faits religieux. Et en Europe même, 8 pays ont encore des législations qui intègrent le blasphème, et pas des moindres. Il y a l'Allemagne, il y a les Pays-Bas, il y a le Danemark, la Grèce, l'Irlande, la Pologne, Malte... L'Europe, en Europe, aujourd'hui... Alors la France est à l'abri de ce genre de choses, en tout cas... est théoriquement à l'abri de ce genre de choses. Parce qu'il y a actuellement dans la société française un débat entre la liberté d'expression qui est garantie par les textes européens et par les Nations Unies, un débat entre la liberté d'expression et la défense du fait religieux. Et on met en avant quelque chose qu'on appelle le sentiment religieux. Ce qu'on dit, c'est « vous avez blessé mon sentiment religieux ». Mais lorsqu'on blesse le sentiment religieux, si on ne tombe pas sous le coup de la loi, si celui qui a blessé le sentiment religieux ne tombe pas sous le coup de la loi, le débat est ouvert. Et comme le disait à l'instant votre invité, on n'est pas obligé d'acheter le journal aussi qui exprime une critique. Et la Cour européenne de droits de l'homme énonce la chose suivante. Elle dit « ceux qui choisissent d'exercer la liberté de manifester leur religion, qu'ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s'attendre à le faire à l'abri de toute critique ». Donc en France, on peut critiquer absolument ce qu'on veut. On peut tomber aussi sous le coup de la loi. Voilà. Les choses sont très claires pour beaucoup de gens, mais visiblement pas pour tout le monde.
Je cite un exemple, Alain Le Gouguec de Blasphème. Je crois que c'est un dossier sur lequel RSF, Reporters sans frontières, s'implique. C'est le blogueur en Arabie Saoudite.
Oui, Raif Badawi.
Voilà. Condamné à 1000 coups de fouet sur 20 semaines. Hein,
ouais,
ça a commencé hier hein, pour Blasphème.
Il a reçu 50 coups de fouet hier. Ouais. Il a été condamné à 200 000 $ d'amende, 10 ans de prison, 10 ans par la suite d'interdiction de sortie du territoire. Raif Badawi. Ouais.
Olivier Ranson, comment vous le dessinez, le prophète, vous ?
Ah, mais je vais le dessiner à visage découvert. Comme je le disais, c'est que j'ai pris la résolution, je l'avais déjà, et j'avais déjà défendu le droit de dessiner le prophète. Je vais le dessiner maintenant à visage découvert, parce que si je lui mets une cagoule, j'ai peur qu'il y ait un amalgame et qu'on le prenne pour un terroriste. Mais je voudrais rajouter quelque
Allez-y,
chose.
Olivier Ranson.
Lors de la première affaire des caricatures danoises, moi, je me souviens que Marianne nous avait demandé à nous autres dessinateurs un dessin pour montrer qu'on peut se moquer aussi de nos religions. Alors je me souviens plus, pardon, de ceux qu'avait fait T-News et les autres qui y avaient participé, mais moi j'avais eu un dessin à l'époque dans le journal dans Marianne, au journal auquel je ne travaille pas, je ne collabore pas, où il y avait Jésus avait aussi une mère juive et Jésus était en croix et Marie devant disait tu veux pas mettre une écharpe quand même.
Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, nous avons vécu des journées hors du commun et vous avez travaillé, vous, sur les grands événements médiatiques. Et là, en balance, dans ce genre d'événement, comme ce qu'on vient de vivre, en balance entre sidération et communion.
Oui, le rôle de la télévision et des médias d'une manière générale, mais surtout l'écran, c'est de rassembler souvent, à l'occasion d'événements heureux ou d'événements malheureux, les individus, les citoyens, les personnes. Et donc moi, j'avais découpé entre événements communion, c'est-à-dire finalement les événements positifs, les mariages, les funérailles, les matchs de foot. Et puis les événements sidération devant lesquels on se réunit, sidéré par ce qui se passe, incapable de décrocher par rapport à l'image. Et là, on le voit bien, ce sont les catastrophes naturelles, les attentats. Et dans l'événement qui nous réunit aujourd'hui, il y a les deux. Il y a à la fois la sidération devant la violence, devant le crime presque filmé en direct, et puis la communion qui nous a permis ensuite de nous retrouver à la République, dans les rues, et de voir que face à l'horreur, les médias étaient capables de nous sidérer et de nous rendre participants à une communauté humaine, communauté nationale, communauté internationale. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à un moment donné, les médias ne suffisent plus. Ils ne suffisent plus à nous rassembler parce qu'on a besoin de se retrouver dans la rue, physiquement. Et c'est ce qui s'est passé après un événement d'une telle ampleur. Le rassemblement devant l'écran n'était plus suffisant. Il fallait se retrouver dans les rues.
Il faut donner de soi.
Que les corps se touchent, que les visages, que les regards se partagent. Et on a vu comment on est tous dans la rue presque spontanément face à, encore une fois, les médias avaient trouvé là leurs limites.
Thank you.
La 7e symphonie de Beethoven qui a été interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France lors de l'hommage de Radio France aux victimes de Charlie Hebdo, hommage que nous avons rendu à nos amis de Charlie et Bernard Maris jeudi dernier après la minute de silence lors de la journée de deuil national.
Charlie Hebdo, c'est un journal qui libre. Voilà.
Libre.
On sent beaucoup d'émotion.
C'est vrai. Ouais.
Le poids des religions, des intégrismes de toutes les religions, ça n'existait pas trop il y a 20 ans. Et ça, c'est nouveau, évidemment. Ils nous font des procès, ils nous font des menaces, parfois. Et ça, on ne peut pas l'accepter.
Bah, je suis en colère, je suis triste, je suis... effondré.
Les humoristes ne sont jamais méchants. Jamais. Ça ne correspond pas avec l'humour. Mais ils doivent être féroces. Ils doivent être sans pitié pour ce qui leur paraît pas bien, quoi. Mais méchants, non. Parce que la méchanceté, beaucoup de gens rient lorsqu'on torture quelqu'un devant eux. Ça arrive. Mais un humoriste, c'est impossible. C'est impossible qu'on soit comme ça.
C'est super important que nous on puisse avoir accès à une presse libre. Peu importe qu'on soit d'accord, pas d'accord. Moi, j'étais pas forcément toujours d'accord, mais il faut que les gens aient le droit de dire ce qu'ils pensent.
Là, on vient d'exterminer une façon de parler, une façon de dessiner, une façon fraternelle de s'adresser aux gens. C'était pas des gens violents. Ils ont jamais fait de mal à personne. Je voudrais, peut-être que c'est un peu con, mais je voudrais que les journaux s'appellent Charlie Hebdo, tous les journaux de France, pour dire pas chez nous, pas ça. Parce que sinon, on n'est plus un pays libre. Toutes ces libertés qui ont été conquises pendant des siècles, à quoi ça sert aujourd'hui? Elles sont en miettes. Imaginez au 19e siècle qu'on ait buté Zola, Hugo, Stendhal, Flaubert. Vous rendez compte ce qui nous manquerait aujourd'hui? C'est ce qui vient de se produire, ma. C'est très grave. Il faut réfléchir à ce qu'on va devoir faire maintenant. Parce qu'il faut reconstruire quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça.
Voilà, on vient d'entendre les voix de Jean Cabu, Georges Walensky, des voix d'Anonyme. Et on vient également d'entendre les témoignages de Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo. Alors Charlie Hebdo sera dans les kiosques hein. La semaine prochaine. Le journal va apparaître à nouveau avec un numéro des survivants tiré à 1 million d'exemplaires. Je signale également que Libé et Luma sortiront exceptionnellement demain dimanche, le jour de la marche républicaine, et que les recettes iront à Charlie Hebdo. C'est également le cas, Alain Le Gouguec, pour Radio France. Avec France Télévisions, le ministère de la Culture organise une soirée soutien à Charlie demain dimanche à 21h. J'en reparle en fin d'émission, notamment sur la façon de se procurer, les billets. Olivier Rançon, la parution de Charlie Hebdo et ce numéro des survivants, ça c'est essentiel. C'est comme la liberté, le droit d'information.
Absolument, on se relève toujours après et il le faut. Quels que soient les morts, le titre va continuer. Et je m'étais dit, là j'ai vu partout. Je suis Charlie, disaient les gens. Et j'ai vu partout cette affiche. Et moi, j'ai dit, vous suivez Charlie. Et moi, je l'achète. Je l'achète chaque semaine. Je l'achetais chaque semaine et je vais continuer.
Je vais signaler aussi un dessin que j'aime beaucoup. C'est la une de l'équipe. Le quotidien sportif, je trouve, a fait un travail extraordinaire tout au long de la semaine, comme tous les journaux, hein, depuis le début, avec cette une aujourd'hui. Voilà, elle est là, on voit un terrain de foot, c'est pas un terrain de foot, c'est une mare de sang, avec marqué au-dessus terrain impraticable, et en dessous on voit les caricatures de nos amis, donc Cabu, Walensky, Charb, Tignus, Bernard Maris, Honoré.
Un dessin de Hugo. Oui,
de Hugo, aussi. Et le policier, oui. Le policier Ahmed Merabet, qui portent tous le maillot Charlie, et dans la bulle ils disent terrain impraticable, ben on jouera quand même. Voilà, c'est une belle caricature, c'est un dessin émouvant ça aussi, Olivier Rançon.
Oui, c'est un dessin humoristique et c'est un dessin émouvant. Le propre de ce travail de feignant qu'on exerce, nous les dessinateurs, c'est de toucher les gens, de les faire réfléchir, pas de les embrigader, pas de ne leur raconter des conneries, que pour les faire réfléchir. Ce dessin, il est extrêmement bien, il résume la situation et il est porteur d'espoir.
Alors, est-ce qu'on a rétabli les liaisons avec, avec Alger? Oui, Omar Belouchette, est-ce que vous êtes en direct avec nous d'Alger, Omar Belouchette, vous nous entendez?
Oui, absolument.
Ah, ben
oui,
voilà, absolument. Ça a l'air beaucoup mieux. Omar Belouchette, donc directeur du journal El Watan, La Nation. Alors, ces événements en France ravivent le cauchemar que vous, vous avez vécu, journaliste algérien. Combien de journalistes algériens tués, Omar Belouchette, pendant, pendant la décennie de l'horreur, la décennie terroriste?
Ben écoutez, entre 93 et 98, il y a eu 70 journalistes qui ont été assassinés, plus une trentaine de membres lorsque les terroristes n'arrivaient pas à toucher des, à battre des journalistes. Donc ils sont également attaqués à des fonctionnaires, des entreprises de presse, des comptables, des chauffeurs, des financiers, des commerciaux, etc. Donc une centaine de membres de rédactions ont été assassinés entre 93 et 98.
Omar Belouchette, est-ce qu'à Alger, tout a commencé comme ce que nous venons de vivre à Paris avec des assassinats ciblés pour faire taire contre les journalistes, contre les intellectuels? Est-ce qu'il y a une similitude?
Ça a commencé par une fatwa, donc par un soi-disant imam, un ancien dirigeant du FIS en décembre 92, qui a décrété que les journalistes devaient être tués, devaient être abattus, etc. Et puis relayés dans beaucoup de mosquées d'Algérie qui à l'époque étaient gérées par le FIS. Donc voilà, donc là le signal, c'était un signal politique, hein, et ça a commencé ça en mai 93. Voilà, on abattait tous les journalistes parce que considérait que la presse ne portait pas les projets du FIS, la presse était contre les islamistes, la presse dénonçait leur façon de faire, ne voulait pas de ce projet pour notre pays, donc ils ont décidé de passer à l'acte.
Est-ce que vous aviez une protection à cette époque, Omar Belouchette?
Écoutez, ça m'arrive un peu des souvenirs très, très durs pour moi.
Parce qu'on assistait, c'était Omar Belouchette, on peut le dire, c'était une chasse aux journalistes, hein, que vous avez vécu.
Oui, tout à fait. Donc j'ai fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 17 mai 93 en présence de mes enfants. Et bon, j'ai eu une protection policière pendant 3 ou 4 jours. Et puis j'ai dit, je suis journaliste, je ne peux pas me balader avec des policiers, etc. etc. Mais lorsque les choses se sont aggravées par la suite, on a exigé des pouvoirs publics, nous avons beaucoup été aidés par les organisations internationales des médias, pour que les journalistes soient logés dans des endroits sécurisés, dans des espaces sécurisés. Donc on a exigé de tous les journalistes, hein, de quitter leur domicile et puis de se mettre à l'abri dans ces hôtels, sinon le carnage aurait été beaucoup plus élevé, le nombre de journalistes tués aurait été inévitablement beaucoup plus élevé.
Comment vous traitez à El Watan les événements en France? Ça fait la une, j'imagine, de votre quotidien.
C'est l'actualité pour nous, c'est une actualité forte française, mais c'est une actualité mondiale. Un commando en plein Paris, tuer comme ça toute une rédaction, décapiter toute une rédaction, c'est un événement considérable pour nous. Donc nous réservons le maximum de pages depuis mercredi, jeudi, c'est la ligne du journal avec des commentaires qui suivent.
Dernière question, Omar Belouchette. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur d'El Watan, le quotidien algérien, La Nation. Cette mobilisation, vous parliez d'un événement mondial, mais il y a aussi une mobilisation mondiale. Ça vous réconforte, cette mobilisation. Il y en avait eu au moment de la décennie terroriste, hein, pour les journalistes algériens. Vous le percevez comment, cette mobilisation mondiale?
Bah écoutez, on n'a pas eu cette, malheureusement, cette mobilisation pour
pas cette ampleur,
la presse algérienne, absolument pas du tout. Hein. Il y avait beaucoup de clichés, il y avait beaucoup de les gens. Bon, je n'ai pas voulu écouter dans la plaie, mais malheureusement, on n'a pas été très, 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 très soutenus au niveau international. mis à part les organisations qui faisaient leur boulot naturellement, mais on n'a pas malheureusement eu cette mobilisation. Et c'est pour ça que le carnage a duré et il y a eu trop de morts, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de morts.
Oui.
Il y a même des communiqués qui ont été, notamment le communiqué me concernant et celui l'assassinat de Tahar Daoud qui est intervenu quelques jours après le drame que j'ai vécu, c'est le 26 mai 93, un communiqué qui a été délivré à partir de l'an par une organisation proche du fils, connue, bien installée à Londres, qui disait que c'est normal que les Moudjahidines, entre guillemets, tue ces deux journalistes parce qu'Omar Mourjad est un francophile et que Tahar Daoud est un communiste, et ça a été balancé publiquement par des violents. Nous avons beau protester auprès des autorités londoniennes, etc., cette organisation a continué à activer pendant les longues années à partir de Londres.
Merci beaucoup Omar Belouchette pour ce témoignage avec une meilleure qualité de ligne mais une écoute encore un peu difficile. Vous étiez en direct d'Alger dans le secret des sources. Merci beaucoup Omar Belouchette. Donc la situation, la décennie de l'horreur en Algérie, Alain, le Gougec. Aujourd'hui, la première réaction après l'attentat Charlie Hebdo, ça a été de penser les journalistes ne sont pas à l'abri dans leur rédaction. Ça a été un choc. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas à l'abri dans nos rédactions les uns et les autres?
On n'est pas à l'abri quand on dérange quelqu'un, de toute façon, on n'est jamais à l'abri. De là à penser qu'on ne va pas plus pouvoir faire un pas dans la rue sans prendre le risque de prendre une balle dans la tête. Évidemment, il y a un pas. On s'en approche, oui. On est peut-être un peu plus solidaire de ce que nos confrères algériens et d'autres confrères et consoeurs partout dans le monde peuvent vivre. Il faut savoir ce que vivent actuellement les journalistes au Mexique, par exemple, et depuis quelques années. C'est une véritable horreur et pourtant le Mexique n'est pas un pays officiellement en guerre. Il n'y a pas l'islam là-bas. On est aux prises avec une autre forme de barbarie, mais ça reste de la barbarie. Ça reste une destination touristique aussi, le Mexique, pour les Français. Eh bien, les journalistes meurent quasiment toutes les semaines, quoi. Et moi, je voudrais revenir sur une chose, c'est qu'on évoquait tout à l'heure ces images en boucle, la nécessité ou non de montrer une image fixe, comme ça a été le cas hier. Oui. Moi, je pense que ça nous appelle ou ça nous rappelle à certains devoirs. Quand l'organisation que je préside s'appelle Reporters sans frontières, les frontières, on a tendance à penser qu'elles sont géographiques, mais elles ne sont pas seulement géographiques, les frontières. Elles peuvent être sociales, peuvent être historiques, culturelles, peuvent être ethniques. Et plutôt que de rester en image fixe quelque part en suivant un événement pendant des heures, si c'est nécessaire, faisons-le, d'accord, mais il faut quand même aussi dégager des journalistes pour aller voir derrière les murs, en France même, ce qui s'y passe. On aurait peut-être vu plus tôt qui étaient les Koulibaly, les deux frères aussi. On aurait peut-être réussi à comprendre des choses peut-être plus tôt. Et je pense qu'on ne le fait pas assez. On déserte encore trop souvent les quartiers. On accorde encore trop peu d'importance dans nos médias. Ici, je cherche à donner le son de personne. C'est certainement pas le rôle de RSF. Pas du tout. Ça, c'est vraiment un avis de journaliste. Je pense qu'il faudrait qu'on aille un peu plus profondément et un peu plus quotidiennement sur ces terrains-là.
Olivier Ranson,
oui,
du Parisien. Allez-y.
Ce que disait Alain, c'est que les frères pois chiches, comme je les appelle, c'était des garçons qui sont passés par l'assistance publique et par des familles d'accueil. Il y a quand même un maillage social qui aurait dû permettre de repérer, d'endiguer ce truc. Je ne parle pas, je ne veux pas tomber dans une caricature. Ah, c'est l'islam, ah, c'est des musulmans, ah, c'est des gens d'origines étrangères, parce que c'est certainement pas ça.
Non, c'est
ils sont
Français,
nés
hein.
En France, ils sont nés en France, ils étaient orphelins,
ils sont Français, oui.
Ils étaient des nôtres, oui. Et ils sont partis comme ça, de l'autre côté du miroir, donc du côté obscur, et c'était aussi à nous, pas seulement journalistes, c'est à notre pays, de voir ça, d'endiguer, et de se protéger comme ça. À l'époque où je me rappelle cette aberration de Sarkozy qui demandait qu'on fasse du dépistage criminel en maternelle, ça n'est pas là que ça se passe. C'est après, c'est bien après. Mais ça, on devrait pouvoir le surveiller, on devrait pouvoir l'empêcher.
Thibault-Anton, dont vous nous parlez dans Le Secret des Sources, des images et du web, les réseaux ont été très actifs et on a appris ce matin que le hashtag avec le slogan « Je suis Charlie » a été utilisé plus de 5 millions, dans plus de 5 millions de tweets. Alors c'est inédit pour ce qui concerne une actualité française.
C'est un des mots dièses les plus partagés de la plateforme, peut-être le plus populaire si l'on cumule donc les hashtags annexes Charlie Hebdo, La France est Charlie, I am Charlie, etc. Une chose est sûre, nous sommes au niveau des échanges qui ont eu lieu au moment des émeutes de Ferguson. Dans le cas de Charlie, on peut voir sur la toile une sorte de carte chronologique où l'on voit l'information se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier. Carte faite de points lumineux qui s'allument depuis le 11e arrondissement de Paris jusqu'aux quatre coins du globe ce 7 janvier. À quoi ressemblons-nous, nous autres, qui suivons fascinés de tels événements sur la toile et sur Twitter en particulier ? Eh bien, à cette image mise en circulation par Batou. Un homme dans sa chambre, assis devant son ordinateur, tapotant sur son clavier. Au premier plan, un feu. L'homme lève le regard de son écran pour constater l'incendie dans sa chambre et revient aussitôt à son clavier pour confirmer qu'il y a bien le feu.
Alors, il nous reste 2 minutes. Hein. C'est une course, c'est un sprint. Là, je voudrais quand même qu'on parle de la manif, du grand rassemblement de demain dimanche et de cette manif organisée donc de demain qui fait suite, Isabelle Véramasson, à cette mobilisation immédiate et spontanée après la tuerie de Charlie Hebdo. Donc il y a unanimité face à l'horreur et encore unanimité avec des différences et union nationale.
Oui, évidemment, l'historienne que je suis pense à l'union sacrée, et on y pense forcément, et la phrase de Poincaré disant « L'union sacrée, c'est la décision spontanée d'oublier toutes les divisions, toutes les querelles, au bénéfice d'une cause qui apparaît à la plus haute de toutes. » Donc on en est là, et moi ce que je voudrais, je suis en train de me demander si véritablement on est tous d'accord sur la cause sacrée. Je crois que c'est ça, et on voit bien dans tous les débats qui nous animent, on est tous d'accord pour dénoncer l'horreur, mais à part ça, il y a beaucoup de différences, beaucoup de nuances qui font qu'on va avoir du mal à durer dans l'union sacrée. Et je crois que d'ailleurs sur la toile, on voit bien que déjà, il y a des gens qui disent « je ne suis pas Charlie, je ne suis plus Charlie ». Et les différences vont très vite naître de cette soi-disant union sacrée.
Alain Le Gouguec, Olivier Ranson, Thibault Henton, Fabrice Lorvoux, Isabelle Véramasson, vous irez manifester demain ?
Non.
Oui.
Oui, moi oui.
Oui.
Je manifeste, personnellement, en tout cas, je trouve que cette union sacrée-là... Enfin, ce serait un peu passé sous silence aussi la responsabilité certains. Hein.
La manifestation démarre...
On va défiler pour des raisons différentes, peut-être.
Voilà, oui, aussi.
La manifestation démarre à 15h, place de la République, demain dimanche. Merci à tous. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités, Omar Belouchette, directeur du quotidien Alouatan, La Nation, en direct. Il était en direct d'Alger avec nous, Omar Belouchette, qui a reçu la plume d'or de la liberté en 1994. Alain Le Gouguec, président de Reporters sans frontières, mais également vous présentez l'émission 116 rue Albert-Londres sur France Inter de 16h à 17h le dimanche.
Et elle est annulée demain.
Elle est annulée.
Pour émission spéciale à laquelle je contribuerai d'ailleurs sur l'antenne d'Inter.
Merci également à Olivier Ranson, dessinateur du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Nos trois regards extérieurs aujourd'hui qui nous ont accompagnés. Merci à Fabrice Lorvaux, avocat, spécialiste du droit des médias, Isabelle Véramasson, historienne, sociologue des médias, directrice du laboratoire communication et politique au CNRS et Thibault Henton pour les images et le web.
Vous avez l'air surpris.
Dans les coulisses de l'émission, mais non, vous êtes à côté. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation. La réalisation de l'émission, le site sur franceculture.fr, avec un grand merci à Jean-Frédéric qui était aux manettes de l'émission. Alors, dans un instant, le journal de Sarah Petitbon, suivi de répliques d'Alain Finkielkraut. Je vous signale donc que Radio France, avec France Télévisions et le ministère de la Culture, je vous le disais, organise une soirée de soutien à Charlie Hebdo, demain dimanche à 21h. Soirée à l'auditorium de la Maison de la Radio et retransmise sur France 2, Culture Box, TV5 Monde, France Inter, France Bleu et bien sûr France Culture. Beaucoup de personnalités, humour, musique pour manifester le soutien à Charlie Hebdo. Alors voilà, vous pouvez acheter les billets sur le site de la Maison de la Radio, maisondelaradio.fr, une somme collectée au profit de Charlie Hebdo. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Dans un instant, réplique, mais d'abord le journal de Sarah Petitbon.